France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Louise Cognard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à la stratégie de la Chine face aux reconfigurations géopolitiques enclenchées par Donald Trump. Nous parlions hier de l'amitié qu'elle consolide avec la Russie. Aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, les promesses de l'oncle Xi.
C'est un grand plaisir de rencontrer à nouveau Sa Majesté le Roi Ibrahim. La Chine et la Malaisie sont de bons amis, des voisins proches et des partenaires fiables. Nos échanges sont si fréquents que nous formons presque une seule famille.
Nous espérons que la Chine continuera d'importer des produits de l'ASEAN. En même temps, il ne s'agit pas seulement d'un échange à sens unique dans le secteur agricole. Même la Malaisie, par exemple, l'un de nos États membres, a également importé du poulet de Chine. Il s'agit donc toujours d'un intérêt mutuel.
Il pourrait sembler que nous penchions vers la Chine. Mais cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes pro-Chine. Être favorable à la Chine n'est pas forcément la même chose qu'être pro-Chine. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un alignement politique, ni d'un alignement stratégique.
Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon, disait Tolstoï dans Anna Karénine. Aujourd'hui, Xi Jinping voudrait convaincre tous ses voisins du Sud-Est qu'ils font partie d'une même grande famille asiatique, comme s'il fallait d'un seul coup. Et parce que la politique commerciale des États-Unis les a quelque peu esselés, oublier les coups bas, les charges que les familles se transmettent de génération en génération, les ingérences de l'oncle Xi, le parent chinois qui se mêle des affaires des uns et des autres et qui ne se prive pas de leur donner quelques fessées territoriales comme on cloue une enseigne, comme on plante un drapeau. La Chine est un partenaire fiable, tel est le message que le président Xi Jinping a martelé lors de son voyage au Vietnam, Cambodge et Malaisie au mois d'avril, alors que Donald Trump avait annoncé des surtaxes douanières mirobolantes pour les pays d'Asie du Sud-Est. Même s'il s'est depuis ravisé, le président états-unien contraint la région à revoir la politique qui prédomine jusque-là, dite diplomatie du bambou, qui, comme la plante aux tiges ligneuses, se montre souple et flexible, penche de façon équilibrée vers les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Ainsi, quand le président chinois rencontre son homologue du Vietnam, oublié la militarisation par Pékin de la mer de Chine méridionale, les deux hommes se sont longuement serré la main. Une bien belle rencontre, a commenté Donald Trump. Une réunion où on cherche le moyen d'entuber les États-Unis. Alors qu'ont les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine à gagner à un renforcement des liens? C'est tout l'enjeu du sommet de l'ASEAN qui s'est ouvert hier d'ailleurs à Kuala Lumpur en Malaisie. Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous avez coécrit l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, avec Christian Lechervy, paru cette année aux éditions Odile Jacob. Nous sommes également en lien depuis ici, pays d'Auvergne, avec Marie-Françoise Renard. Bonjour.
Bonjour
et bienvenue à vous. Vous êtes professeure émérite à l'université de Clermont-Ferrand, économiste spécialiste de l'économie chinoise. Vous avez écrit « La Chine dans l'économie mondiale entre dépendance au pluriel et domination » paru aux éditions des presses universitaires Blaise Pascal. Alors d'abord Marie-Françoise Renard, quelle place ont prise dès hier au sommet de l'ASEAN les discussions autour de cette réponse à apporter à Donald Trump face aux surtaxes douanières? Réponse ou non réponse d'ailleurs s'il s'agit de faire le dos rond et de regarder ailleurs.
Alors, il ne s'agit pas vraiment de faire le dos rond, mais les pays de l'ASEAN sont entre la Chine et les États-Unis. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas choisir, mais il a été clair hier dans la déclaration qui a été faite, puisqu'il y a eu une déclaration sur le projet ASEAN 2045, notre futur partagé. Il a été clair que l'ASEAN cherche de nouveaux partenaires, et d'ailleurs, les pays du Golfe ont été invités à participer à cette réunion, ce qui est quelque chose de tout nouveau qui montre le besoin de diversification des partenaires. Bien sûr, le commerce avec la Chine, alors il n'y a pas que le commerce comme lien, on en parlera sans doute, mais le commerce avec la Chine a beaucoup aidé les pays du sud-est asiatique et réciproquement, mais enfin c'est quand même dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on voit bien que les stratégies de ces pays, d'abord, ne correspondent pas à un alignement politique, ils sont différents les uns des autres et ils ne sont pas tous politiquement proches de la Chine, certains le sont plus que d'autres, mais on n'est plus du tout dans cette période où on a des stratégies de bloc, donc chaque pays garde son droit, on pourrait dire, à exprimer une opinion différente de la Chine ou des autres pays de l'ASEAN. Et d'autre part, on voit aussi qu'il y a un accent mis, même si les termes de ces réunions sont toujours très généraux, mais quand même un accent mis sur l'inclusion et sur la durabilité. Les pays d'Asie, on va sans doute en reparler, veulent innover, veulent représenter un poids dans l'économie mondiale, et c'est justement ce que la Chine souhaite faire avec les pays du Sud. Et là, il apparaît très clairement qu'il recherche une alternative aux États-Unis, sans toutefois désirer s'en passer.
Donc profiter des investissements chinois et ne pas simplement les recevoir, être acteur de cet argent qui arrive notamment d'entreprises chinoises ou d'investisseurs chinois pour notamment développer leur savoir-faire technologique. Ces pays d'Asie du Sud-Est, Sophie Boisseau-Durocher, dans un premier temps, ils ont été visés par Donald Trump avec des surtaxes douanières très très importantes, jusqu'à 49% pour le Cambodge, 46% pour le Vietnam, 24% pour la Malaisie. Alors, Donald Trump a finalement consenti à les abaisser. D'abord, pourquoi des surtaxes douanières, des différences telles entre pays? Comment est-ce qu'ils ont été calculés, définis dans un premier temps? Et surtout, est-ce que ça a fait l'objet de discussions, le fait que Donald Trump finisse par les abaisser? Est-ce que c'est au terme de discussions avec les premiers concernés, voire de concessions de leur part?
Alors non, je ne crois pas. Enfin, rien d'officiel en tout cas. Ce qui est évident, c'est que les pays d'Asie en général et les pays d'Asie du Sud-Est en particulier s'étaient préparés à cette seconde administration Trump. Ils avaient déjà subi, je dirais, de vrais déconvenus lors de la première administration, et donc là, ils avaient anticipé précisément grâce au rapprochement intra-asiatique et notamment avec la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu que Trump annonçait des droits de douane qui semblaient absolument aberrants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont absolument pas paniqué. Ils ont vraiment laissé, je dirais, la logorée trumpienne se déployer. Et puis tout d'un coup, celui-ci fait marche arrière. Donc en fait, l'administration américaine s'est rendu compte que elle n'avait peut-être pas autant à gagner qu'elle ne le pensait en imposant des droits de douane très élevés. Ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a vraiment en opposition ou en tout cas en miroir deux approches très différentes, deux stratégies très différentes. La Chine laboure le terrain de façon consciencieuse, très approfondie, très régulière, c'est-à-dire qu'elle peut essuyer un échec, mais revenir dessus et refaire une autre proposition depuis près de 30 ans. Or, ce qu'on voit depuis près de 30 ans, c'est que la part dans les échanges commerciaux de l'ASEAN des États-Unis et de l'Europe décroît régulièrement. Et cette part a été progressivement remplacée par les pays asiatiques, pas seulement la Chine d'ailleurs, hein, mais aussi la Corée du Sud, le Japon, Taïwan ont des échanges avec l'ASEAN qui sont très dynamiques. Donc il y a véritablement là une dynamique qui se met en place et qui va certainement porter préjudice aux États-Unis.
Donc une dynamique qui se met en place et qui souffle un vent contraire sur le bambou dont il est question quand on parle, Marie-Françoise Renard, de la diplomatie du bambou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que veut dire ce terme très officiel, hein, c'est pas une expression exotisante qu'on utilise ici pour dire les pays de l'ASEAN vont à la fois chercher leurs intérêts aux États-Unis et en Chine. C'est un terme officiel qui apparaît, je crois, même dans les documents de ces pays, et en quoi cette diplomatie est en train progressivement de changer?
Alors effectivement, la diplomatie du bambou, c'est un jeu diplomatique subtil. On dit que c'est à Ho Chi Minh qu'on l'on doit cette expression. Et cela consiste à avoir une certaine flexibilité par rapport aux demandes des pays étrangers, mais en même temps d'essayer de faire diminuer les tensions et de plier, mais de ne pas céder. Donc quand il y a des conflits, on essaye de ne pas s'aliéner les pays. C'est un mélange de douceur et de fermeté, de flexibilité et de pragmatisme pour essayer de développer des relations équidistantes avec toutes les puissances importantes. Et on voit bien que les pays, alors bien sûr on en parle beaucoup pour le Vietnam, mais on peut aussi en parler pour la Thaïlande et d'autres pays, les pays vont développer par exemple un partenariat stratégique global, c'est le cas du Vietnam, en rehaussant le niveau de sa stratégie avec les États-Unis, mais il a le même niveau avec la Chine. On a des pays qui font des exercices militaires avec la Chine, mais également avec les États-Unis. Donc cette diplomatie du bambou, elle consiste à s'adapter aux circonstances sans s'affronter violemment avec les pays avec lesquels on est en désaccord, mais essayer de faire évoluer les choses pour ne pas perdre. Voilà.
Et donc, pour bien qu'on comprenne comment et pourquoi cette diplomatie du bambou est en train de changer ou le vent tourner pour que le bambou se ploie un petit peu plus du côté de la Chine, c'est donc revenir sur ces surtaxes douanières mirobolantes qui ont été d'abord annoncées par Donald Trump avant qu'il ne se rétracte. N'empêche, vous le disiez Sophie Boisseau-Durocher, cette menace, elle est latente depuis le premier mandat de Donald Trump. Pourquoi, tout simplement, on a l'impression qu'il s'agit d'une forme de punition de la part de Donald Trump qui reproche à ces pays d'Asie du Sud-Est d'avoir été trop longtemps une forme de plateforme de transit des pays produits en Chine ou par des investisseurs chinois pour les renvoyer vers les États-Unis, pour les exporter vers les États-Unis, alors même qu'il y avait eu, dès le premier mandat de Donald Trump, des sanctions commerciales des États-Unis vers la Chine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de regarder une carte. Je crois que la géographie plaide en faveur de cette diplomatie du bambou. C'est-à-dire quand depuis des siècles, vous avez un voisin géant comme la Chine, eh bien, vous êtes obligé d'être souple, d'être inclusif et de composer avec ce grand voisin. Ça, c'est le premier point. Et je me souviens que dans différentes réunions auxquelles j'ai assisté en Asie du Sud-Est, on me rappelait régulièrement que la Chine est un voisin direct avec quatre pays d'Asie du Sud-Est quand il faut traverser un océan pour joindre les États-Unis. Donc il y a là une réalité qui s'impose et qui impose, si vous voulez, une diplomatie du bambou flexible et inclusive, comme le rappelait Madame Renard. Et puis il y a donc conséquence de ce choix, il y a une posture diplomatique qui est celle des pays d'Asie du Sud-Est et de l'ASEAN depuis très longtemps, qui est de ne pas avoir à choisir. Ils ne supportent pas quand les pays occidentaux leur demandent de s'aligner. C'est pas pour rien que le non-alignement, le mouvement du non-alignement, est né en Indonésie en 1955. Il y a là véritablement, si vous voulez, une conviction diplomatique qu'on ne gagne rien à s'aligner, mais qu'il y a beaucoup plus de richesse et d'élan à composer avec les uns et les autres, avec la réalité du monde. Donc voilà, c'est une idée qui revient naturellement aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, la diplomatie du bambou ploie plus du côté chinois que du côté américain, mais c'est d'abord de la faute des Américains. Et ça, c'est un point intéressant que nous mettons dans notre livre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un rapprochement intra-asiatique, c'était parce que les pays occidentaux ont déçu. Ça date de la crise de 1997 et ça s'est répété depuis avec d'autres crises. Et je vous rappelle quand même que la première décision prise par l'administration Trump en 2017, était d'annuler le TPP qui avait été laborieusement négocié par Obama, c'est-à-dire un accord de libre-échange entre les pays d'Asie et les États-Unis, les États d'Amérique. Donc il y a véritablement là, si vous voulez, des erreurs qui ont été répétées et dont la Chine a tout simplement récupéré les bénéfices. Donc c'est si vous voulez, la diplomatie du bambou est intelligente dans le sens où un acteur, un partenaire majeur comme les États-Unis peut se révéler non fiable et on peut perdre confiance dans ce partenaire. Donc il faut avoir d'autres cartouches pour pouvoir continuer à se développer et à se stabiliser.
Même si, mais ça, manifestement c'était très conjoncturel, même si la Chine pendant un temps s'est un peu désengagée de cette région, c'était pendant la pandémie de Covid et un peu au-delà aussi, la Chine s'est très largement isolée et pendant ce temps les États-Unis, le gouvernement américain de Joe Biden voulait resserrer les liens avec l'Asie du Sud-Est. On avait vu en 2023, le Vietnam avait hissé au plus haut niveau stratégique ses relations diplomatiques avec les États-Unis, au même rang que la Chine d'ailleurs et que la Russie, me semble-t-il. Marie-Françoise Renard, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je crois que cette question de confiance est effectivement très importante, mais il faut rappeler que la stratégie de Donald Trump, elle est d'abord tournée vers son électorat et que le point central, c'est la désindustrialisation des États-Unis et le déficit commercial, qui sont liés à des considérations d'ordre macroéconomique et les droits de douane ne changeront rien à ça. Mais pour des raisons électorales, il a dit depuis le début que la solution, c'était les droits de douane. Et comme son premier ennemi, entre guillemets, dans la concurrence pour la technologie, qui est un élément central, son premier ennemi est la Chine, eh bien, évidemment, la première réaction, elle a été tout à fait logique. Et comme cela vient d'être dit, la Chine et les pays de l'ASEAN s'étaient préparés, puisque ça correspond à ce qu'il avait déjà dit lors de son premier mandat. Donc, en fait, il s'agit d'une stratégie qui, économiquement, est infondée. Et on voit bien qu'il est obligé de reculer parce que ça n'a pas beaucoup de sens.
La Chine a plutôt renforcé ses efforts en matière de recherche et développement plutôt qu'elle n'a été coulée par les surtaxes douanières du premier mandat.
Mais bien sûr, et je me souviens très bien, j'étais en Chine lors des deux élections de Trump et de discussions avec des collègues chinois qui me disaient « mais la stratégie de Trump, ça va simplement inciter la Chine à renforcer ses financements de recherche et développement ». Et c'est ce qui a été fait. Et donc, c'est une stratégie strictement liée à la politique intérieure américaine, enfin assez largement liée à la politique intérieure américaine, et qui a des effets qui sont des effets très négatifs, puisque cela permet à la Chine d'apparaître beaucoup plus fiable et raisonnable que les États-Unis.
Et d'apparaître beaucoup plus fiable et raisonnable auprès de ses partenaires sud-asiatiques. Dans ce branle-bas de combat diplomatico-économique, ces surtaxes annoncées par Donald Trump et toutes les discussions qui s'en sont suivies, Xi Jinping a fait la tournée il y a 15 jours de trois de ses voisins d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Malaisie et Cambodge. Il a été reçu partout avec des coups de canon et des pétales de rose. D'abord, est-ce que c'est lui qui profite de la situation pour s'inviter et assurer de ce que lui est un partenaire fiable, ou est-ce que ce sont d'abord les pays d'Asie du Sud-Est qui lui ont demandé de venir et qui lui demandent d'être là dans cette période d'incertitude, Sophie Boisseau du Rocher?
Eh bien, les deux, évidemment. Alors, je crois que ces visites ont été prévues depuis très longtemps. Mais il faut quand même remarquer que Xi Jinping se déplace tous les ans en Asie du Sud-Est, ce qui n'est évidemment pas le cas du président des États-Unis, qui même peut rater, entre guillemets, des réunions multilatérales en Asie, parce que il y a des contraintes aux États-Unis même. Donc, si vous voulez, la Chine est un partenaire qu'on voit, avec lequel il y a des liens très étroits, des liens à la fois personnels, mais des liens, je dirais, administratifs, bureaucratiques, institutionnels. Donc c'est un partenaire qui est incontournable, qui est devenu réellement incontournable. Et puis le choix de ces trois pays n'est pas au hasard, ce sont des pays qui sont plutôt favorable à la Chine, le Cambodge évidemment, vient d'ouvrir une base militaire reconstruite par les Chinois, la Malaisie qui accueille très largement les investissements chinois, et puis le Vietnam qui a une position un peu ambiguë parce que le Vietnam a profité évidemment des délocalisations chinoises sur son territoire comme tremplin vers vers les États-Unis pour se développer ces dernières années, tout en étant relativement prudent sur la stratégie chinoise en mer de Chine méridionale. Donc, on retrouve, si vous voulez, un lien qu'on travaille, un lien auquel on accorde de l'importance. Effectivement, ces pays ne sont pas tous d'accord et n'ont pas tous le même niveau d'alignement sur Pékin, mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'ils cherchent à se rapprocher de la Chine parce que aujourd'hui, la Chine leur apparaît comme un partenaire beaucoup plus fiable, à la fois sur le plan économique, commercial, sur le plan des investissements, sur le plan de la diplomatie et sur le plan politique éventuellement, parce que la Chine ne met pas de conditions politiques à ces rapprochements, alors que les États-Unis ou l'Union européenne le font. Donc il y a, si vous voulez, de multiples raisons qui expliquent l'attractivité de l'offre chinoise.
Et qu'est-ce qu'elle a, elle d'abord, la Chine, Marie-Françoise Renard, qu'est-ce qu'elle a à gagner à ces rapprochements? Pendant longtemps, on a dit qu'elle ne pouvait conserver sa place de puissance mondiale qu'avec le soutien de sa région. C'est encore le cas aujourd'hui, ça fait l'objet de théories, de réflexions au plus haut niveau du Parti communiste chinois, cette place que la Chine doit garder dans la région.
Oui, alors d'abord, l'objectif de la Chine depuis déjà assez longtemps est de proposer une alternative aux pays occidentaux dans les institutions internationales, dans la gouvernance mondiale. À partir de 2009, la Chine a eu une position beaucoup plus active et a assuré sa place en demandant à participer aux négociations, à avoir un poids beaucoup plus important. Et lors à Davos en 2009, la Chine a dit que finalement les États-Unis, on voyait bien après la crise financière, étaient incapables d'avoir une place aussi importante dans l'économie mondiale et qu'il fallait changer l'organisation de l'ordre du monde. Et pour cela, elle a besoin des pays du Sud dont elle aimerait être le leader. La Chine ne veut pas prendre la place des États-Unis, mais proposer un nouvel ordre dans lequel on ne lui imposera pas de changement politique, on acceptera les normes de la Chine et ce sera aussi un débouché pour ses produits, etc. Donc les relations avec le Sud sont extrêmement importantes pour la Chine. Et d'autre part, on voit bien aussi que même si on s'en tient au plan économique, il y a eu un accroissement de l'intégration. Entre 2010 et 2023, les exportations chinoises vers l'ASEAN ont été multipliées par 5. Donc c'est un débouché extrêmement important à un moment où elle risque de perdre des débouchés aux États-Unis, enfin où elle perd depuis quelques années des débouchés aux États-Unis et où elle essaie de se diversifier.
Mais à ce sujet, Marie-Françoise Renard, juste parce qu'on n'a pas employé encore ce mot, cet anglicisme qu'on trouve un peu partout à ce sujet, le friendshoring, la délocalisation vers des pays amis, cette technique qui consiste à passer par des pays tiers, comme le Vietnam par exemple, pour continuer à exporter vers les États-Unis en contournant les sanctions commerciales des États-Unis. Quand vous dites que la Chine exporte, que les exportations vers l'Asie du Sud-Est ont énormément augmenté ces dernières années, est-ce que c'est le débouché final était ces pays d'Asie du Sud-Est ou c'était pour ensuite être réexporté vers les États-Unis?
Non, alors le fait de vouloir délocaliser pour échapper aux sanctions, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. Mais la Chine est très intégrée dans les chaînes de valeur asiatiques, c'est-à-dire que les produits parcourent différents pays avant d'en arriver au stade final. Et aujourd'hui, c'est ce stade final qu'elle veut délocaliser. Mais juste pour vous donner un exemple, quand on regarde les exportations des pays de l'ASEAN, il y a aujourd'hui pratiquement 22 ou 23% de la valeur ajoutée qui est due à la Chine, alors qu'en 2000, c'était 4%. Donc ça veut dire qu'une partie importante dans ces chaînes de production est due à une valeur ajoutée par la Chine. Pour la demande intérieure de l'ASEAN, c'est la même chose. La Chine a pris un poids qui est devenu extrêmement important. Donc c'est une interdépendance qu'il y a entre les économies et qui font que maintenant, effectivement, vous avez raison, la Chine va délocaliser les dernières parties de sa production pour échapper aux taxes de Trump. Je voudrais ajouter quelque chose dans cette intégration. Il y a quelque chose dont on parle assez peu, qui est quand même intéressant, c'est l'internationalisation de la monnaie chinoise. L'intégration de l'ASEAN lui permet de donner plus de poids à cette intégration. Alors, bien sûr, le poids du yuan dans le commerce est encore très faible, mais il faut savoir que la Chine a signé des accords de swap, c'est-à-dire des lignes de crédit entre banques centrales pour des crédits qui, après, sont distribués aux banques commerciales. Elle a signé ces accords entre, ils ont été signés entre la banque centrale chinoise et les banques centrales des pays de l'ASEAN. Donc, ça accroît les relations et les interdépendances entre les pays, même si on va donner plus de poids aux monnaies locales et pas seulement au yuan, c'est aussi une forme importante de caractère, une caractéristique importante de l'intégration de la Chine dans les pays de l'ASEAN.
Et qu'est-ce qu'elle a à offrir ou à proposer à ces pays de l'ASEAN, Sophie Boisseau-Durocher, que les États-Unis, mais aussi d'autres partenaires comme les Européens, par exemple, dont on parlera demain, ne pourraient pas proposer? On parle toujours, et vous l'avez dit aussi, cette stabilité qu'offrirait, que proposerait la Chine, comme si Xi Jinping disait toujours la même chose, restait sur les mêmes objectifs. C'est ça qui se passe. Il y a aussi une stabilité structurelle du Parti communiste comme interlocuteur pour ces pays. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la Chine partenaire fiable, stable, selon les mots de Xi Jinping?
Eh bien, ça veut simplement dire que la Chine ou les dirigeants chinois ne sont pas des partenaires qui changent d'avis au gré des élections et qui donc d'un congrès, je dirais, à l'autre, ont une position qui est très stable. Et c'est quelque chose qui permet de lancer des visions à moyen terme qui sont tenues parce que elles ne sont pas remises en cause par une nouvelle équipe qui prendrait le pouvoir. Donc ça, c'est un point très important. Et on a développé dans notre livre l'idée d'un modèle asiatique de développement. Et on voit bien que du Japon à la Chine, en passant par l'Indonésie, Singapour, ces pays se réfèrent à un même modèle de développement où l'État central a un rôle majeur. Et donc, il y a effectivement des liens, des convergences qui facilitent, si vous voulez, les relations. Je crois que ce que la Chine, d'abord, a offert à l'Asie du Sud-Est depuis 1997, c'est-à-dire depuis cette crise traumatique pour les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien, c'est un nouvel élan. Ce qui est étonnant, et je pense que Madame Renard me confirmera, quand on voyage dans ces pays et qu'on discute avec nos collègues asiatiques, ils estiment quand même que l'Europe ou les États-Unis sont des puissances du passé et que les puissances d'avenir se trouvent dans cette région du monde. Donc, il y a un élan majeur qui a été impulsé par la Chine à la fin du XXe siècle et au début du 21e, dont les pays d'Asie du Sud-Est ont directement profité. Donc ça, c'est un point important. La Chine apparaît donc non seulement comme un partenaire fiable, un partenaire dynamique, mais également comme un partenaire innovant. Hein, je vous rappelle quand même que toutes les processus de transformation numérique, télécom, informatique, infrastructure, intelligence artificielle, se font grâce aux coopérations mises en place entre les partenaires d'Asie du Sud-Est, dont certaines start-up sont particulièrement innovantes, et les partenaires chinois, ou parce qu'ils apportent de la recherche et de la technologie, ou parce qu'ils apportent des financements. Donc, il y a aujourd'hui des convergences qui transforment réellement la région. L'Asie du Sud-Est développe et adopte l'intelligence artificielle dans de multiples secteurs, la santé, le commerce électronique, les villes intelligentes, eh bien la Chine est systématiquement derrière pour aider à cette transition, à cette transformation. Il y a d'ailleurs un centre d'innovation en intelligence artificielle établi par la Chine et l'ASEAN à Nanning, dans le Guangxi. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui une densité de rapprochement dont les partenaires occidentaux sont progressivement
exclus. Ouais.
Et ça, c'est un point aussi très important. Donc voilà. Donc je crois que ce qu'elle a à offrir, c'est au-delà de tous ces avantages de non-conditionnalité, c'est une promesse d'avenir. La vraie question aujourd'hui pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est que s'ils savent que la Chine est ou incarne cette promesse d'avenir, ils ne veulent pas être broyés par les termes que Pékin pourrait imposer. Et donc, leur objectif, c'est de diminuer, entre guillemets, le risque chinois, c'est-à-dire les ambitions à long terme du Parti communiste chinois.
Est-ce que la Chine partage, quand on voit aujourd'hui Marie-Françoise Renard, la Thaïlande investir dans les véhicules électriques, la Malaisie dans les centres de données, le Vietnam qui, par des accords de coopération avec la Chine, innove dans l'économie digitale, l'intelligence artificielle, l'économie verte, etc. Est-ce que ça veut dire que la Chine partage avec les pays d'Asie du Sud-Est son savoir-faire technologique, ou c'est quelque chose de beaucoup plus vertical ?
Alors effectivement, la Chine fait profiter, et c'est bien l'intérêt pour ces pays, de ses capacités d'innovation pour plusieurs raisons. Elle a besoin de ces pays pour avoir des débouchés, pour accroître des liens et encore une fois pour créer ces réseaux de partenariat. Vous avez donné l'exemple des centres de données en Malaisie. Le Vietnam, elle a un projet d'investissement en matière de véhicules électriques au Vietnam. Et d'une façon générale, les pays de l'ASEAN, comme d'autres pays, sont très intéressés par tout ce qui est lié à la décarbonation, pardon, à l'environnement et à l'amélioration technologique dans ces domaines. Alors, il y a aussi, ça dépend des pays, mais il y a aussi la capacité de la Chine à transformer les minerais, pour lequel elle a un quasi-monopole, et qui est très intéressant pour un pays comme l'Indonésie, par exemple, qui a besoin des compétences chinoises. Et donc, cette capacité d'innovation, ces transferts de technologie, ils sont extrêmement importants pour les pays de l'ASEAN. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce qui a été dit précédemment. Pardon.
Je vous en prie.
Évidemment, la stabilité politique de la Chine est rassurante pour les autres pays. Je crois que c'est effectivement un point qui est très important. Il faut quand même pas oublier que pour les entreprises étrangères, la loi sur la sécurité qui existe désormais en Chine est quand même quelque chose qui est aussi inquiétant, parce que de ce point de vue-là, le gouvernement peut tout faire. Alors, il ne fera pas n'importe quoi, ça c'est clair, mais il peut tout faire. Donc, je suis d'accord entièrement avec ce qui vient d'être dit. C'est juste un petit bémol sur cette prévisibilité et sur les risques qui sont possibles.
Et tous les risques aussi de renforcer encore leur dépendance à la Chine, car ces nouveaux partenariats, quand bien même ils servent à ces États à soutenir leur propre croissance, ils contribuent aussi peut-être à les lier indirectement à la Chine un peu plus encore, à les en rendre plus dépendants encore. Vous disiez tout à l'heure, Sophie Boisseau-Durocher, que tous les pays de l'ASEAN ne sont pas dépendants de la Chine à la même hauteur. Peut-être en quelques mots, lesquels sont les plus dépendants, lesquels le sont moins ?
Alors, évidemment, les plus dépendants sont, je dirais, les moins développés, les plus pauvres. Hein. On a parlé du Cambodge, on a parlé de la Birmanie aussi. Donc, ce sont des pays du Laos, qui, pour différentes raisons, sont très dépendants des flux chinois. Un pays comme l'Indonésie a une masse suffisante pour imposer certaines règles à ses partenaires chinois. Marie-Françoise Renard a parlé de la transformation des matières premières, hein, ce qui était une obligation imposée par l'ancienne administration de Joko Widodo, le président indonésien qui vient de quitter son poste. Et puis, mais que la Chine a accepté. Singapour, évidemment, a aussi suffisamment de résistance pour discuter de façon et puis de rapprochement civilisationnel avec la Chine pour discuter sur un pied qui soit plus raisonnable ou responsable. Voilà, la Malaisie et la Thaïlande sont proches à la fois de la Chine et des partenaires occidentaux. Mais à nouveau, ce qui est important, enfin ce qui me semble important, c'est que la Chine est un acteur incontournable aujourd'hui, évidemment, en Asie orientale, mais d'autres acteurs sont aussi très importants. En préparant cette émission, je jetais un œil sur les investissements japonais en Asie du Sud-Est, qui restent supérieurs aux investissements chinois. Hein. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'il y a aujourd'hui un alignement complet de ces économies sur l'économie chinoise. Il y a de plus en plus d'échanges avec les autres puissances asiatiques et c'est bien précisément ce qui intéresse également Pékin, hein, c'est-à-dire de faire partie de cet espace, d'en être l'acteur principal, si vous voulez, de cet espace qui est véritablement doté d'un dynamisme actuellement qui va certainement se confirmer dans les 20 prochaines années. Donc il y a toute une dynamique qu'il ne faut pas négliger.
Et d'ailleurs, puisque vous citez le Japon, Sophie Boisseau-Durocher, il se trouve que il y a en ce moment des discussions entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon pour un accord de libre-échange. Est-ce que c'était quelque chose d'envisageable, Marie-Françoise Renard, entre ces trois pays avant que Donald Trump ne les y pousse? On parle souvent de la Chine et du Japon comme de rivaux économiques qui veulent justement se partager, non pas se partager la région, ce serait une façon de le présenter caricatural, mais qui, en tout cas, chacun pousse ses pions. Et là, non, ils discutent pour un accord de libre-échange.
Oui, alors la Chine a énormément d'accords bilatéraux de libre-échange donc avec un grand nombre de pays. Le Japon, effectivement, c'est pas seulement un opposant économique, c'est aussi un opposant politique. Enfin, il y a une histoire lourde entre le Japon et la Chine qui perdure un peu. Mais les relations économiques entre les deux pays sont extrêmement importantes. Les investissements réciproques, le commerce, etc. sont extrêmement importants. Et là, je crois qu'on voit très bien dans ces relations avec le Japon et avec la Corée du Sud qu'il y a une sorte de prudence pour limiter les risques, avoir des considérations avant tout économiques, en se disant que finalement il y a une instabilité du côté des États-Unis, une incertitude sur ce qui peut être pris, incertitude justifiée puisqu'on voit bien que les annonces de Trump sont extrêmement changeantes et que donc les pays de la zone ont intérêt à pouvoir discuter entre eux et à pouvoir stabiliser les relations. Au sein de l'ASEAN, les droits de douane sont devenus pratiquement nuls, ce qui a énormément servi le commerce international. Et donc les pays craignent beaucoup que le commerce qui a soutenu la croissance de tous ces pays puisse être pénalisé par ces décisions. Et je voudrais ajouter que dans les pays, vous avez à juste titre fait remarquer qu'il n'y avait pas que la Chine, il y a le Japon, il y a aussi l'Inde. Et donc on a là un grand bloc qui a intérêt à favoriser les relations économique. Et cet intérêt, il n'est pas nouveau, mais les décisions ont été accélérées par les annonces de Trump. Et d'ailleurs, il y a eu une réunion du Politburo au tout début des annonces de Trump pour réfléchir à ce que la Chine allait faire, notamment avec les pays d'Asie.
Peut-être pour conclure, Sophie Boisseau-Durocher, cette première partie, comment les pays de l'ASEAN peuvent, entre guillemets, tirer leur épingle du jeu, puisqu'ils sont face aujourd'hui à une Chine qui a besoin d'eux d'une certaine manière, même s'ils ont beaucoup plus besoin d'elle que le contraire, on l'a bien saisi en vous écoutant l'une et l'autre, mais ils peuvent peut-être essayer de jouer du contexte pour tirer avantage, attirer des conditions plus favorables à des politiques commerciales avec la Chine. Quelles sont les marges de manœuvre des pays d'Asie du Sud-Est et pendant combien de temps peuvent-ils jouer cette carte du rééquilibrage entre guillemets avec la Chine sans que ça ne pénalise trop leurs relations déjà établies avec d'autres pays hors Asie, les pays occidentaux essentiellement?
Alors, on peut revenir au début de l'émission, hein, quand on parlait précisément de la diplomatie du bambou. C'est une diplomatie qui est pratiquée depuis des siècles en Asie du Sud-Est. Et donc, ce rééquilibrage, il va se faire naturellement. Moi, depuis que je travaille sur les pays d'Asie du Sud-Est, on me dit que leur politique n'est pas tenable. Or, elle tient et, je dirais même, elle se renforce avec le concept de centralité de l'ASEAN. Je crois qu'au fond, c'est la grande intelligence de ces pays, de savoir dans quelle case, dans quelle catégorie ils doivent jouer et essayer de capitaliser sur leurs atouts. L'Asie du Sud-Est est une région carrefour, c'est une région interface entre deux océans. La Chine en a besoin, les États-Unis en ont besoin. Eh bien, elle essaye de jouer, et les pays européens aussi, d'ailleurs, ne l'oublions pas. Et donc, elle essaye de jouer, si vous voulez, cette carte du rapprochement inclusif pour pour essayer de trouver des solutions dont elle tirera elle-même, et peut-être en priorité, avantage. Mais on a tous avantage à avoir une Asie du Sud-Est stable, ouverte et inclusive. Donc je crois que la centralité de l'ASEAN, qui va certainement être rappelée pendant ce sommet, qui se tient aujourd'hui et demain, va certainement être renforcée dans les prochaines années.
谁把谁的灵魂装进谁的身体，谁把谁的身体变成了欲囚禁自己，乱世总是最不缺耳语，那种美丽会换来妒忌，你并没有罪，有罪是这世界是个温柔罪，你不需要抱歉。 Wonder I will be you Baby boy and could be meこ不停想我陪你安静 I wish I could hurt you To really really be free Oh my god
Mayday, le groupe de rock taïwanais très populaire en Chine, souvent surnommé les Beatles du monde sinophone. Un groupe qui avait fait l'objet d'un grand scandale en Chine il y a un peu plus d'un an, quand des internautes l'ont accusé d'avoir eu recours au playback. En Chine, c'est interdit par la réglementation locale, car considéré comme un acte de tromperie. Et parce qu'ils sont très populaires à Taïwan aussi, les autorités chinoises leur auraient demandé de dire publiquement que Taïwan fait partie de la Chine à l'occasion de la dernière élection présidentielle de janvier 2024. C'est ce que qu'affirmait l'agence Reuters, c'est que Pékin dément. Taïwan, justement, pour le focus de cette deuxième émission consacrée au nouveau partenariat économique de la Chine face à l'offensive commerciale de Donald Trump.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Taïwan partage les valeurs de la démocratie avec ses partenaires démocratiques du monde entier. Par ailleurs, nous suivons les principes du libre-marché pour prospérer ensemble. C'est là notre plus grand atout et cela offre un cadre propice aux hommes et femmes d'affaires taïwanais pour déployer leurs énergies et leurs compétences. C'est la plus grande différence entre nous et le système autoritaire.
Le dirigeant taïwanais William Lai Ching-te, la semaine dernière, prêt à poursuivre les discussions avec les États-Unis, car Taïwan n'est pas épargné par les surtaxes imposées par Donald Trump à ses partenaires commerciaux. 32% pour Taïwan, qui a fait savoir qu'elle ne répliquerait pas par une mesure identique. Mais Taïwan est donc d'un côté affaibli par ses alliés états-uniens et de l'autre par sa rivale chinoise, puisque la Chine utilise comme moyen de pression un accord de libre-échange qui existe avec Taipei depuis 2010. Bonjour Philippe Aguigné.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant sur l'économie chinoise à l'INALCO et à Sciences Po. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Montaigne. Alors, on parle toujours de la relation entre la Chine et Taïwan en termes militaires, stratégiques, politiques. Mais alors que Taïwan est menacé par Pékin, qui revendique une souveraineté sur l'île et souhaite une unification par la force, Taïwan commerce avec la Chine. Taïwan vend des ananas à la Chine, entre autres. Comment qualifier les relations commerciales entre ces deux pays?
Alors, les relations commerciales, elles sont intenses et elles sont assez anciennes. Alors, elles s'étaient interrompues évidemment après 1949, pendant une période assez longue, mais elles ont recommencé dès les années 80. Et elles se sont intensifiées dans les années 90 et dans les années 2000. Alors, à tel point qu'un accord de libre-échange a été signé en 2010, qui s'appelle la CCE. Donc, ça avait été signé à Taïwan à l'époque, c'était le Kuomintang qui était au pouvoir, c'était pas le DPP.
DPP, il faut juste rappeler de quoi il s'agit. Le Parti démocrate progressiste qui prône une politique de fermeté face aux velléités chinoises et qui, en effet, à l'époque, s'était opposé à cet accord en disant que ça allait bouleverser l'économie locale et accélérer la disparition d'1,6 million d'emplois.
Tout à fait. Donc, cet accord a toujours été un sujet un peu sensible à Taïwan. D'ailleurs, en 2013-2014, il était question d'étendre cet accord commercial au domaine des services et ça avait provoqué une réaction très vive parmi la jeunesse taïwanaise et ça avait été un des facteurs qui avait contribué à l'élection de Tsai Ing-wen, donc du DPP, comme président de la République. Mais du côté chinois, cet accord de libre-échange a en fait déjà été suspendu au moment de l'élection de Lai Ching-te, dont vous parliez tout à l'heure, donc successeur de Tsai Ing-wen, et qui est un petit peu la bête noire des autorités chinoises, parce qu'il lui reproche d'être un indépendantiste, même s'il n'a pas pris de mesures spécifiques pour conduire Taïwan vers l'indépendance depuis qu'il est président, mais la Chine a les plus grandes suspicions vis-à-vis de lui. Et donc la Chine a suspendu l'accord en 2024. Et de manière plus général, la Chine n'hésite pas à utiliser l'arme économique pour essayer de faire comprendre aux Taïwanais, à la population taïwanaise, qu'en fait, il n'y a pas d'autre issue que la réunification avec le continent que souhaitent les autorités chinoises. Donc, la CCE, cet accord de libre-échange, est un des leviers que la Chine utilise pour faire pression sur Taïwan, évidemment en matière politique.
C'est un accord qui paraît aujourd'hui anachronique dans la mesure où, encore une fois, quand on parle de la Chine et Taïwan, on ne parle que de cette pression militaire que la Chine fait subir à Taïwan aujourd'hui. Cet accord de libre-échange, il a réduit les droits de douane sur 539 catégories de produits venus de Taïwan et notamment sur les semi-conducteurs. Jusqu'où peut aller la Chine sans se pénaliser elle-même? Est-ce qu'elle ne tire pas elle aussi partie de ces accords de libre-échange?
Alors là, la Chine bénéficie d'un phénomène de dépendance asymétrique. Alors, je vais essayer d'expliquer ce terme, et ça joue avec Taïwan, mais ça joue avec pratiquement tous les pays du monde. C'est-à-dire que le marché chinois, la Chine, est une bien plus grande économie que la plupart des autres pays du monde. Et donc, vu de n'importe quel pays, par exemple de Taïwan, la Chine, c'est le principal partenaire commercial, le premier marché pour les exportations, etc. Mais évidemment, la réciproque n'est pas vraie du point de vue de la Chine. Et tous les partenaires de la Chine ont, dans les importations chinoises, ont une part de marché relativement limitée. Donc oui, en faisant ça, la Chine, d'une certaine manière, se fait mal à elle-même, se tire une balle dans le pied. Mais c'est une petite balle dans un grand pied. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça fait beaucoup plus de mal à Taïwan qu'à la Chine. Puisque du côté de Taïwan, même s'il y a un effort conscient des autorités pour réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'économie chinoise, les exportations de Taïwan vers la Chine, on est toujours, en gros, ça représente à peu près, les chiffres sont difficiles à établir avec précision parce qu'il y a beaucoup d'exportations qui passent par des pays tiers, etc. Mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est 30%. Mais en revanche, si vous regardez la part de Taïwan dans les importations chinoises, là, c'est l'ordre de grandeur, c'est quelques pourcents. Donc vous voyez, c'est asymétrique. Et c'est pour ça que la Chine peut se permettre d'utiliser cette arme. Alors effectivement, il y a le sujet des semi-conducteurs qui est très sensible, parce que les principales exportations de Taïwan vers la Chine, c'est bien des semi-conducteurs. Vous savez que Taïwan est le principal, enfin une société taïwanaise qui s'appelle TSMC, a un quasi-monopole sur la production des puces électroniques les plus performantes, hein, celles qui sont utilisées en particulier pour les applications les plus avancées en matière d'intelligence artificielle. Donc la Chine ne veut pas se couper de ces approvisionnements-là. Mais là, il y a aussi la composante américaine, parce que les États-Unis font pression sur Taïwan pour qu'ils restreignent leurs ventes des semi-conducteurs les plus sophistiqués à la Chine.
Des semi-conducteurs aux ananas, il n'y a qu'un pas, c'était pas gratuit quand j'ai cité les ananas tout à l'heure, Taïwan, dépendante de l'économie chinoise, avait vu il y a 2 ans, en 2021, juste avant les élections d'ailleurs, Pékin décider pour des raisons sanitaires, disait-elle, de bloquer l'importation des ananas taïwanais. Quelles conséquences ça avait eu pour l'économie taïwanaise et pour la politique taïwanaise aussi?
Alors, du point de vue macroéconomique, on va dire que ça reste marginal. Mais parmi les secteurs économiques de Taïwan, bien entendu, l'économie taïwanaise, c'est principalement l'électronique, mais il y a aussi une industrie agroalimentaire qui est très performante. Ces fameux ananas qui sont produits dans le sud de l'île, vous avez raison de souligner que c'était avant des élections, que donc la Chine a trouvé un prétexte alimentaire de sécurité alimentaire pour interdire les importations d'ananas de Taïwan. Mais c'était un irritant pour les Taïwanais, parce que c'était visible, c'était spectaculaire, et ça rappelait le pouvoir de nuisance que la Chine a sur l'économie taïwanaise. Alors ceci dit, quand la Chine a recours à ce type d'action pour faire sentir sa force, et en fait pour menacer Taïwan, les résultats sont peut-être pas tout à fait ce que la Chine espère, parce que d'un côté ça inquiète les Taïwanais, ça leur pose des problèmes. On peut parler aussi par exemple des restrictions sur les voyages touristiques par des Chinois de Chine populaire à Taïwan, qui sont importants pour l'économie locale, mais ça ne fait pas que inquiéter les Taïwanais, ça renforce sans doute aussi la volonté de Taïwan de résister à ces pressions, et donc ça a des effets qui sont tout à fait ambigus. Et du point de vue électoral, à chaque fois que la Chine a essayé d'utiliser ces outils de coercition, ça n'a pas eu les résultats escomptés, et on en est donc, c'est la troisième fois qu'un président du DPP est élu au poste de président.
Le DPP, donc le Parti démocrate progressiste. Parce qu'en effet, quand la Chine bloque l'importation d'ananas taïwanais ou décide de ne pas délivrer de visa de tourisme, on s'est aperçu que très souvent, la colère des électeurs, enfin ceux qui vivent de ces exportations ou du tourisme à Taïwan, dirigent leur colère plutôt vers les dirigeants taïwanais plutôt que vers la Chine ou les partis liés à la Chine. Et aujourd'hui, le DPP n'a pas la majorité à l'Assemblée. Merci beaucoup, Philippe Aguigné, d'avoir été avec nous.
Merci de votre accueil.
Et nous sommes toujours avec Marie-Françoise Renard. Marie-Françoise Renard, face à cela, que peut Taïwan ? Est-ce que Taïwan travaille à amoindrir sa dépendance commerciale à la Chine ?
Oui, elle a beaucoup diminué sa dépendance en matière de commerce international. Le chiffre de 30% a été cité tout à l'heure. Il faut rappeler qu'en 2020, c'était 43%. Et donc, elle a augmenté ses exportations vers les États-Unis et vers les pays de l'ASEAN de façon très notable. On peut remarquer quand même que la Chine continue à importer de Taïwan, et notamment des circuits intégrés très haut de gamme qui sont utilisés dans les applications de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui va servir le soutien à l'innovation, bien sûr, la Chine va continuer à l'importer. Et il y a encore des relations assez étroites avec des entreprises de Taïwan qui sont dans la province du Fujian, en face de Taïwan. Taïwan a beaucoup diminué sa dépendance commerciale à l'égard de la Chine. Il y a quand même des relations qui persistent. Et je crois aussi, pour terminer sur une note politique, que la Chine essaie aujourd'hui d'intervenir dans la politique intérieure de Taïwan pour influencer les électeurs, pour les inciter à avoir une vision bienveillante de ce qui pourrait être une réunification avec la Chine et de voir la Chine d'un autre œil, en tout cas comme un partenaire acceptable, contrairement à évidemment ce que défend aujourd'hui le gouvernement chinois. Mais on voit que lors des dernières élections, il a une difficulté et des difficultés à avoir une majorité.
Le gouvernement taïwanais, le parti dont on parlait. Merci beaucoup Marie-Françoise Renard d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre « La Chine dans l'économie mondiale entre dépendance et domination » paru aux éditions des Presses universitaires Blaise Pascal, vous étiez en direct depuis ici, Pays d'Auvergne, et je remercie Benoît Allard de vous y avoir accueilli et reçu. Et merci beaucoup à Sophie Boisseau-Durocher, dont je rappelle le titre de l'ouvrage qu'elle a coécrit avec Christian Lechervy et qui est apparu là très récemment aux éditions Odile Jacob, l'Asie Pacifique, nouveau centre du monde. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous parlez, Catherine, du fossé qui se creuse entre Israël et le reste du monde dans la couverture médiatique de la guerre à Gaza.
Si la presse internationale prenait de la hauteur fin janvier pour rendre compte de l'ampleur des dégâts causés dans l'enclave palestinienne après plus de 15 mois de guerre, avec des images satellites ou des drones qui montraient un paysage apocalyptique, des ruines à perte de vue, comme le soulignaient la BBC et le New York Times, aujourd'hui, avec la majorité des habitations détruites ou endommagées et 95% des terres agricoles de Gaza qui sont incultivables ou inaccessibles, alerte l'agence de presse britannique Reuters, l'agence russe TASS, ainsi que Middle East Eye et la chaîne télévisée qatari Al Jazeera, cette presse internationale revient aujourd'hui à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants surtout pour faire comprendre notamment l'urgence de la famine à Gaza. Car malgré les annonces d'Israël de laisser entrer l'aide humanitaire, elle n'arrive qu'au compte-goutte alors qu'il en faudrait des flots, dénonce le secrétaire général de l'ONU, cité par le quotidien The Australian et la radio internationale allemande Deutsche Welle. Le centre de distribution dans la zone de Rafah aurait dû ouvrir il y a deux jours, mais il reste fermé, indique le quotidien israélien Yediot Aharonot. L'entreprise américaine rencontre des problèmes opérationnels, affirme l'armée israélienne. Le quotidien Yediot Aharonot, qui diffuse par ailleurs des images qui, je cite, « remettent en question les allégations répétées de famine à Gaza ». La BBC, elle, préfère montrer la réalité de la situation. Le visage émacié et les yeux hagards de Siwar Achour, un bébé de 5 mois dont les pleurs d'épuisement à l'hôpital Nasser de Ran Younes ont tellement affecté le caméraman local de la BBC, je vous en parlais d'ailleurs au début du mois, que quelque chose s'est brisé en lui. Il faut dire que Siwar pesait à peine 2 kilos, alors que pour son âge à 5 mois, elle devrait peser 3 à 4 fois plus. Siwar est sortie de l'hôpital, elle vit aujourd'hui dans un abri avec sa mère et sa grand-mère, elle n'a plus de lait infantile et vit au rythme des drones, des bombes qui tombent, si bien que lorsqu'elle dort, elle se réveille en sursaut et en pleurs, rapporte la BBC. Des drones qui apportent la mort à Gaza, poursuit un autre média britannique, Channel 4.
Bread is life. But life turns to death so quickly in Gaza.
Le pain, c'est la vie, mais la vie se transforme en mort si rapidement à Gaza. En milieu de matinée, un drone a frappé des personnes qui se trouvaient dans la file d'attente d'une boulangerie. Ils étaient peu nombreux. Désormais, les gens se rassemblent non pas pour se nourrir, mais pour essayer de sauver les blessés. Un événement quotidien à Gaza, raconte encore Channel 4, aussi courant que de manger du pain dans la plupart des régions du monde. Channel 4 a également interrogé Simcha Rotman, un député israélien qui appartient au même parti d'extrême droite que Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui a lui appelé au nettoyage ethnique de Gaza.
Israel, until now, has more protection of human life and children in Gaza.
Israël a mieux protégé les vies humaines et les enfants à Gaza. Ils ne meurent pas de faim, affirme ce député israélien d'extrême droite, interrogé donc par Channel 4. Il affirme également que les enfants ne sont pas innocents car utilisés comme boucliers humains par le Hamas, alors que la journaliste de Channel 4 insiste, elle, sur la responsabilité aussi et avant tout de l'armée israélienne. De tels propos contre les Gazaouis contre les Arabes en général ont également choqué hier le quotidien israélien Haaretz, pour qui, lors de la marche annuelle de Jérusalem, l'extrême droite israélienne a étalé son véritable objectif pour la guerre à Gaza. Ce qui est différent cette année, c'est qu'il n'y a aucune barrière entre ces chantres ouvertement meurtriers et le gouvernement israélien, alerte Haaretz. Plus que jamais, ils sont le gouvernement. De son côté, The Conversation, avec des universitaires de Tel Aviv, mais aussi de Bergen, en Norvège, ont constaté que de nombreux Israéliens avaient une vision éloignée de la réalité à Gaza à cause de la censure des médias dans le pays ou de l'autocensure pratiquée par les journalistes israéliens. Le quotidien Haaretz estime que la vie en Israël et à Gaza, en Palestine même, ressemble à une sorte d'apocalypse zombie sans fin, comme dans la série The Last of Us. Reste à savoir si nous, êtres humains, pourrons y mettre fin.
Enfin, Catherine, la Corée du Nord fait le ménage après le lancement raté d'un navire de guerre
qui a provoqué la colère du dirigeant Kim Jong-un. Le directeur adjoint du département de l'industrie des munitions du Parti des travailleurs au pouvoir est en grande partie responsable de ce grave accident de la semaine dernière, rapporte l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le navire de guerre de 5000 tonnes s'est renversé, il a endommagé sa coque dans ce que Kim Jong-un a décrit comme un acte criminel qui a gravement porté atteinte à la dignité et à la fierté du pays. Le week-end dernier, Pyongyang
a également arrêté 3 responsables du chantier naval de Chongjin, dans le nord du pays où le navire de guerre a été construit et où son lancement a échoué, comme le rappelle la Deutsche Welle. On ne sait pas exactement à quelles sanctions les personnes arrêtées pourraient être confrontées, précise la BBC, mais la Corée du Nord est connue pour condamner les fonctionnaires qu'elle juge coupables d'actes répréhensibles à des travaux forcés, voire à la mort.
Merci beaucoup Catherine Dutu.